Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Chaban de la mairie de Bordeaux à l'Élysée, première.
Il nous faut chercher un nouvel équilibre qui nous donne le temps de vivre et d'aimer. Changer la vie. Changer la vie quotidienne. Projet phare de la nouvelle société.
Premier ministre de Georges Pompidou en 1969-1972, il avait porté l'idée de nouvelle société dont il avait fait le cœur de sa campagne présidentielle en 1974. Il avait alors sévèrement échoué. Ce n'est pas toujours facile de l'emporter à droite quand on dit « la République n'a pas besoin de divisions supplémentaires ». La recherche du consensus dès le premier tour, est-ce que c'est l'attitude la plus payante? Mais voilà, c'est depuis longtemps l'état d'esprit bordelais. Pour faire chic, on fixe ses origines à Montaigne, qui fut maire de la ville au XVIe siècle. Mais il doit bien davantage à Jacques Chaban-Delmas, lequel tint l'hôtel de ville, le palais Rohan, un demi-siècle jusqu'en 1995. Il avait su créer autour de lui une société politique, d'aucuns disaient une féodalité républicaine, qui permettait de former des alliances inattendues. Les socialistes ne cherchaient généralement pas à le déloger. Il avait des vassaux d'autres tendances que la sienne. Il aurait même pu être le premier ministre de François Mitterrand. Mais les clés qui permettent d'accéder au palais Rohan ouvrent-elles les portes de l'Élysée? Aujourd'hui encore, les esprits forts expliquent que la métropole bordelaise n'est pas représentative de la société française qui serait plus difficile à apaiser. Certes, le premier essai n'a pas été marqué par Bordeaux en 1974, mais le match va peut-être rebondir en 2016-2017.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Bernard Lachaise, bonjour.
Bonjour.
Bernard Lachaise, vous aimez tant l'université de Bordeaux que vous n'avez jamais réussi, vous non plus, à la quitter. Qu'est-ce qui se passe pour le centenaire de Chaban? Vous avez organisé des choses sous votre houlette, parce que vous avez déjà publié un Chaban politique, un Chaban et Bordeaux.
Alors la mairie de Bordeaux organise le 7 mars, jour anniversaire du 100e anniversaire de sa naissance, une petite manifestation donc au pied de la statue qui a été érigée il y a quelques années. Et nous faisons ensuite une journée d'études scientifiques pour résumer un petit peu les trois vies de Jacques Chaban-Delmas le 17 octobre prochain, où il y aura effectivement trois aspects de son parcours, le résistant, l'homme d'État et le maire de Bordeaux.
Le résistant. Alors il était résistant des 40, soutier, fantassin. Et en 44, on le retrouve général. C'est le général de Gaulle qu'il nomme général de brigade à la mi-juin 44. Il n'a peut-être pas très bien réalisé que Chaban n'avait que 29 ans.
Alors il l'a réalisé, il le trouvait un peu jeune quand on lui a proposé effectivement cette nomination et surtout d'en faire le délégué militaire national. Mais il a été convaincu, enfin le général de Gaulle a été convaincu par ceux qui connaissaient Jacques Chaban-Delmas, enfin Jacques Delmas devenu Chaban-Delmas, dans son combat effectivement du côté de la résistance à partir, enfin dès les débuts, mais avec une accélération à partir de 1943. Et à partir de là, donc il l'a adoubé comme résistant et on sait l'importance que la phrase « c'est bien Chaban » dite par De Gaulle au moment de la libération de Paris a compté pour Chaban.
Il revient de Londres, mi-août d'ailleurs, porteur des instructions du gouvernement provisoire de la France libre. C'est le film « Paris brûle-t-il » René Clément.
J'étais donc allé à Londres fin juillet, revenu le 16 août, et revenant le 16 août, avec des instructions très précises du général Koenig, à savoir ne déclenchez pas d'insurrection avant que j'en ai donné l'ordre, j'avais trouvé un Paris au bord de l'insurrection.
Pour nous, il s'agit seulement de différer les combats et d'éviter un massacre inutile. Jusqu'à ce que les rapports de force évoluent en faveur de la résistance.
C'est ça. Nous croiser les bras en attendant l'arrivée des alliés.
C'est une lâcheté! C'est un
il est impossible de délibérer dans de telles conditions.
Parfaitement.
Je
Bon, la symphonie viendra ensuite. On n'a pas dit qui interprétait Jacques Chaban-Delmas dans le film de Clément.
Alain Delon, bien sûr.
Ça a dû faire plaisir à Chaban.
Oui, je crois. Réciproquement, Delon devait être fier et Chaban était heureux.
Parce que vous n'avez pas dit que Delon en 66 est aussi séduisant que Chaban passait pour l'être en 44.
Bah, ça a servi effectivement le jeune Chaban-Delmas d'être jeune et d'être bel homme à la fois en 1945 et au-delà.
Alain Juppé, non, on l'a dit qu'on ne parlait pas d'Alain Juppé aujourd'hui, a érigé une statue à Chaban-Delmas qui est place de la mairie et on le voit se diriger vers la mairie.
Voilà, il regarde la mairie. Il regarde la mairie.
46-47, il va d'abord conquérir un siège de député, puis le palais Rohan. Alors ça, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il est proche, ou il passe pour proche du général de Gaulle. Il fait dire au général de Gaulle que celui-ci l'approuve de prendre une autre étiquette que celle de gaulliste. Et il sait, un peu comme Mitterrand dans la Nièvre, à la même époque, s'attirer les soutiens des milieux les plus divers. Mitterrand, lui, commence avec les Châtelains et Alain Juppé. Jacques Chaban-Delmas.
Jacques Chaban-Delmas. Bah, Jacques Chaban-Delmas s'inscrit effectivement au Parti radical. Il n'y avait pas de parti gaulliste à ce moment-là. Et il réussit effectivement à la fois à obtenir le soutien d'Édouard Herriot.
Le soutien leader radical.
Qui était le leader radical. Et le soutien de Charles de Gaulle. Même si celui-ci n'a pas été affiché publiquement. En tout cas, lui a revendiqué les deux appuis. Et à partir de là, bah, il est tombé dans une conjoncture favorable à Bordeaux. Les radicaux n'avaient plus les leaders d'avant-guerre qui s'étaient discrédités et entretués lors des élections précédentes. Les radicaux sont dans une phase plutôt ascendante dans la deuxième moitié de l'année 46. Ils récupèrent une partie de ceux qui commencent à être déçus par le tripartisme qui régnait depuis l'année précédente.
Mais vous lançant sur les châtelains de la Nièvre avec Mitterrand, je pensais que vous alliez me parler de l'aristocratie du bouchon.
Ben, l'aristocratie du bouchon, il l'a rapidement conquise. C'était une des clés, en quelque sorte, de son implantation à Bordeaux, grâce notamment à Daniel Lotton et par l'intermédiaire de Laurent Cruz, qui était un de ses amis de l'inspection des
Cruz,
finances.
Cruz, ça fait grand nom de négociant.
Voilà. Et
Chartrand.
Et ces négociants, effectivement, ce milieu des protestants a été tout à fait acquis très vite à Jacques Chaban-Delmas.
Il faut dire que le maire d'avant-guerre, qui s'était affirmé comme notable collaborationniste pendant l'occupation, est inéligible. Adrien Marquet, il est même à l'époque en prison.
À Bordeaux, l'exposition « L'Allemagne nos jours » reçoit la visite de M. Adrien Marquet, maire de la ville, et de M. Pierre Alippe, qui sont accueillis par le général Faber Dufaux. Cette importante manifestation qui fermera bientôt ses portes est une synthèse de l'effort industriel allemand. Après les autostrades, voici pour les croisières ouvrières, le Robert Ley, l'un des paquebots de la force par la joie.
À Bordeaux, M. Vincent Auriol, président de la République, et M. Chaban-Delmas, député maire de Bordeaux, ont visité, à bord d'une vedette de la marine, les travaux du grand port de la ville et du port autonome qui vient d'être réalisé. Puis le président Auriol et M. Chaban-Delmas ont inauguré la foire de Bordeaux.
Chaban-Delmas a toujours présenté sa trajectoire comme une accélération perpétuelle, mais enfin, il a failli risquer la rétrogradation en 1953, parce que du diable, Vauvert est revenu. Adrien Marquet.
Marquet avait beau effectivement avoir sérieusement collaboré, il est discrédité au sortir de la guerre, mais une grande partie des Bordelais lui garde encore une certaine sympathie et parfois plus. Et il n'a pas pu se présenter aux élections municipales de 1953, mais via une liste marquettiste en réalité, il est quand même très présent dans cette élection, et Jacques Chaban-Delmas n'a pas, à l'issue des élections de 1953, de majorité au Conseil.
Il y a eu deux années de tempête, c'est là d'ailleurs que les coups bas ont été très très nombreux. Les amis de Marquet mettaient en cause les mœurs de Chaban, envoyaient des lettres anonymes jusqu'au général de Gaulle.
Oui, on a à peu près tout dit, effectivement, sur Jacques Chaban-Delmas. C'est tout utilisé à ce moment-là pour pouvoir l'écarter. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais ça a été quand même extrêmement près de réussir. Et il a fallu finalement...
Chaban envoyait deux gars de la Résistance pour savoir d'où venaient ces lettres anonymes. Et ils sont tombés, les deux gars de la Résistance, qui voulaient faire un mauvais sort au garçon sur un vieux monsieur qui vivait avec sa mère et qui, tous les mois, était payé pour envoyer une lettre anonyme.
Ouais. Ce n'est pas la seule fois dans sa vie où il a été victime de ce genre de choses.
Après 53, 54, aux élections de 59, c'est l'élargissement de l'assise. Alors voilà maintenant un acrobate qui se tient au bord de tous les mondes politiques. Il a été ministre de la 4e République, il est resté gaulliste alors que le général de Gaulle maudissait la 4e République. Et puis quand le général de Gaulle revient au pouvoir, il est dans une position accommodante.
Oui, il fait partie de ces hommes et de ces gaullistes qui ont intégré partiellement le système, donc, comme vous le dites, en participant à différents gouvernements. Au moment où la Ve République naît, évidemment, ça lui est reproché par un certain nombre de puristes, et le général de Gaulle ne l'avait pas en particulier retenu pour le... Il n'était pas son candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et c'est encore, c'est Chaban qui réussit le tour de force de s'imposer face à Paul Reynaud, qui
était
plutôt le candidat.
C'est quoi la formule du général de Gaulle quand il est content de Chaban? Et là, il l'était qu'à moitié. C'est bien, Chaban. L'acrobate a d'ailleurs, rappelons-le, parce que c'est très important dans sa légende, un physique d'athlète. Le jeune Edgar Pisani, qui est aussi un héros, Paris brûle-t-il, quand il était préfet de la Haute-Marne, jouait au basket dans l'équipe de Chaumont. Et Chaban, lui?
Alors Chaban, c'est un sportif, un vrai sportif, effectivement, qui a pratiqué des sports extrêmement différents. Le rugby.
Alors le rugby, pourquoi le rugby? C'est pour qu'on l'appelle Jacques, pour qu'il soit rugby, connu autrement que Chaban et autrement que Delmas.
Non, c'est quand même l'attachement. C'est quelqu'un quand même qui a été, vous l'avez dit, bondissant, offensif durant toute sa vie. Et je pense que dans le rugby, il trouvait ce moyen de se démener, de se défouler en quelque sorte. Mais c'était une passion sincère. Il a joué souvent au rugby.
Alors il s'est inscrit au club de Bègle, donc une ville ouvrière, celle de Noël Mamère, aujourd'hui. Mais il s'était déjà produit dès la Libération.
Un grand événement sportif. Au Parc des Princes, une sélection parisienne se mesure avec le 15 de la Royal Air Force. La fraternité d'armes aura permis la reprise des relations interrompues depuis de longues années entre rugbymen français et britanniques. Les joueurs britanniques en maillot clair remporteront la victoire en marquant 26 points contre 6 à l'équipe française. C'est en 5 minutes que le général Chaban Delmas, capitaine de l'équipe française, marque les 2 fois 3 points qui rendent un peu moins cuisante la défaite des sportifs parisiens. L'honneur est sauf.
La volonté que le président Chaban Delmas met à s'astreindre à une préparation physique régulière, quelles que soient ses occupations, lui permet de conserver à 47 ans une étonnante forme et de figurer encore parmi les meilleurs joueurs de tennis de notre pays.
Ça vaut une bonne partie, au moins.
Qu'est-ce que le sport vous apporte dans votre vie?
D'abord, la satisfaction d'un amour. Puis aussi autre chose qui est aussi importante, c'est la lutte. La lutte contre moi. Ça a commencé quand j'avais 15 ans. J'étais au lycée et on a monté une équipe de rugby. J'étais assez malingre, assez chétif. Et ça a été une lutte très dure contre ma peur. Rien que pour cela, le sport, je lui dois une reconnaissance définitive.
Combien de fois ne l'a-t-il pas répété? Là, c'est aux coulisses de l'exploit. Je me vins moi-même, j'ai l'esprit d'équipe. Et puis alors, le sport, ça permet de développer toute une philosophie politique. On n'a pas d'adversaires, on a des partenaires. Ou si on a des adversaires, ce ne sont pas des ennemis.
Oui, cet attachement sincère et cette pratique effectivement du sport lui a servi en politique. Vous évoquiez Bègle, les milieux ouvriers, ça l'a ouvert... des portes aussi aux Capucins, quartier commerçant de Bordeaux. C'est là ouvert donc dans des horizons avec lesquels, enfin qui tranchaient complètement avec les Chartrons que nous évoquions tout à l'heure. Donc ça a eu aussi des effets bénéfiques pour son installation et sa durée politique.
Bon, on va pas parler de la vie économique, de la vie industrielle de Bordeaux, qui n'est plus un aussi grand port qu'avant, mais qui, grâce peut-être à l'entregent de Chaban Delmas, attire des industries nouvelles. Il est très singulier dans l'utilisation du registre de la culture, pas seulement le sport.
Alors la culture, c'est une des actions politiques dans lesquelles il s'est impliqué personnellement, car il y a eu véritablement une politique de Jacques Chaban Delmas, du maire de Bordeaux en matière culturelle, dès son premier mandat.
Il n'y a personne à cette époque-là qui mette la culture en avant parmi les grands-mères de France.
Pas à ce point-là. Et durant 25 ans, il est effectivement parmi les maires qui sont les plus impliqués à titre personnel dans la culture. Avec une accélération à partir du milieu des années 70, notamment en matière de budget.
Dans les années 70, c'est Alain Lombard qui prendra la direction de l'orchestre Bordeaux-Aquitaine. Oui, dans les années 70, c'est Benzi. Dans les années 80, c'est Alain Lombard. On va l'entendre, Alain Lombard, là, dans le cas l'enfant et les sortilèges de Rameau. Mais d'abord, le président, le général, le maire, enfin moi je ne sais comment dire, qui présente, c'est le fait du prince, le programme de ce qui va devenir le Met de Bordeaux. C'était habile le Met de Bordeaux parce qu'il s'agissait d'amener au Grand Théâtre des gens qui couchaient dans des hôtels où les chambres n'étaient pas occupées au mois de mai.
Oui, hein, tout à fait.
Il y avait ça qui jouait aussi.
Bordeaux, pour la troisième fois, va nous offrir son troisième festival de musique. Et bientôt d'abord, le général député maire de Bordeaux, Chaban Delmas, a bien voulu pour la radiodiffusion française nous faire un résumé des grandes lignes artistiques de ce troisième festival.
Nous allons puiser aux sources françaises, germaniques et russes.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean Lebrun qui aurait dit Rameau et pas Ravel, je n'en crois pas un mot. Hein.
Ça ne m'a pas.
Bernard Lachaise. Bernard Lachaise, on parle avec vous de Chaban. Est-ce que de la mairie de Bordeaux, on peut passer à l'Élysée? Restons pour l'instant à la mairie de Bordeaux, le duc d'Aquitaine, c'est ainsi qu'on le surnommait, ça peut être discuté. Quand il présidait au Grand Théâtre le mai, c'était extrêmement impressionnant, il était dans la loge avec la duchesse, sa dernière épouse, Micheline, et puis la réception qui suivait, tout le monde était très content d'avoir parlé avec lui, sauf qu'il était resté 10 minutes et il s'était éclipsé. Sans que personne ne s'en aperçoive.
C'est à la fois une méthode et une habileté de sa part, mais qui fonctionnait très bien. Le charme fonctionnait très vite de par la présence, des sourires, des poignées de main généreusement distribuées, et une présence effectivement très très réelle dans sa ville et tout au long de son parcours, malgré parfois les responsabilités politiques lourdes.
Et puis, j'indique cette phrase de Chaban à ceux de nos auditeurs qui terminent leur déjeuner. Partir de table avec un peu d'appétit.
Absolument.
C'était son principe. On va voir maintenant Chaban à son zénith. Il va être Premier ministre de Georges Pompidou entre 1969 et 1972 et promouvoir un peu contre l'Élysée le projet de nouvelle société. Alors, la nouvelle société, est-ce qu'il l'a expérimenté à Bordeaux? Ça consistait à dire, la nouvelle société, que les déshérités avaient des droits sur les autres, que la richesse devait être partagée.
Alors il l'a dit. Il l'a dit que Bordeaux avait été une sorte de laboratoire de la nouvelle société parce qu'il avait été très frappé, ce qui est tout à fait juste, par l'état de délabrement de la ville et de la société bordelaise au lendemain de la guerre, quand il est arrivé dans la ville. Et ce qui est vrai, c'est que dans la nouvelle société, il y a, au-delà de mesures strictement sociales, il y a tout un état d'esprit, un mode de fonctionnement, d'ouverture vers les autres et vers toutes les catégories de la société. Et cette politique-là, cette méthode, il l'avait effectivement expérimentée à Bordeaux, notamment dans le domaine social, relativement tôt, et encore plus à partir des années 1960, avec son adjointe Simone Noailles, qui a été la grande maîtresse, en quelque sorte, de cette politique, et qui avait la totale confiance de Jacques Chaban-Delmas. Donc c'est quelque chose qui avait commencé à Bordeaux. Il y a d'autres sources d'inspiration et quand il propose la nouvelle société, il pense en particulier à l'après 68. C'est aussi une réponse à 68. C'est quelque chose sur lequel il a réfléchi dans les années 60. Il s'est aussi inspiré du modèle américain. Il y avait la nouvelle frontière derrière, le slogan, sa rencontre avec Kennedy l'avait marqué. Donc il y a un petit peu cette volonté. Mais ça dépasse le strict domaine social.
Oui, c'est du sociétal, comme on dirait aujourd'hui. En témoigne d'ailleurs l'extrait de ce meeting de 1974 qu'on va entendre. En 72, Georges Pompidou avait congédié Jacques Chaban-Delmas, qui avait la confiance de l'Assemblée, qui avait imprudemment voulu d'ailleurs se l'avoir confirmé par les députés. Le président de la République, lui, n'avait plus confiance en lui. quand Georges Pompidou meurt brusquement, Jacques Chaban-Delmas se présente à la présidentielle, peut-être un peu brutalement.
Majorette et canotier en moins, cela ressemblait étrangement à une convention américaine, diront plusieurs journalistes étrangers.
S'il faut continuer à croître, ce qui est certain, il convient de le faire en accordant davantage de place à la qualité de la vie, aux relations entre les personnes, aux moments de détente, de culture, de sport, de loisirs. Autrement dit, il nous faut chercher un nouvel équilibre qui nous donne le temps de vivre et d'aimer. Libérer le citoyen, mieux vivre ensemble, lutter contre les inégalités, améliorer la condition de l'homme au travail, changer la vie quotidienne. C'est l'autre projet phare de la nouvelle société.
Échec cinglant pour Chaban-Delmas au premier tour, 15% seulement, 30% pour l'autre candidat de la droite, Giscard d'Estaing, en faveur duquel il doit se retirer. On réfléchit beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, sur les raisons de l'échec de Jacques Chaban-Delmas. C'est pas parce qu'il était trop clivant. On dit ça aujourd'hui, mais Giscard n'était pas clivant non plus, il recherchait lui aussi le consensus.
Oui, mais ce qui avait été très novateur dans la nouvelle société, dans le discours et dans la pratique même, parce que même si Georges Pompidou n'appréciait pas la formule, un certain nombre de mesures avaient été prises quand même, fonctionne beaucoup moins bien en 1974 lors de la présidentielle. Jacques Chaban-Delmas avait beaucoup utilisé déjà cette formule depuis 1974. Il ne l'avait pas vraiment renouvelée et approfondie dans le détail. Ce que l'on vient d'entendre, c'est une sorte de résumé finalement de la philosophie de vie de Jacques Chaban-Delmas, qui est donc à la fois son modèle personnel et ce qu'il a voulu effectivement faire, mais ça fonctionnait moins bien. Et ce qui est assez cruel pour lui finalement, c'est que très vite après le début de la campagne, il n'apparaît pas sur ce domaine-là comme le plus moderne, comme le plus en pointe. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui apparaît comme l'homme du changement, comme l'homme le plus moderne.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on se retire pendant deux ans du sommet et qu'on se présente à la présidentielle, il faut avoir réfléchi et renouvelé ses idées. Mais enfin, c'est qu'un croc en jambe de Jacques Chirac qui l'a fait tomber aussi. Alors, je parle à quelqu'un qui a dirigé un excellent livre, l'édition Nouveau Monde, Bernard Lachaise, Gaulliste, Homme et Réseau. C'est Chirac qui le fait tomber.
Oui, c'est une des raisons. C'est
qui refuse de le soutenir.
C'est le coup de poignard dans le dos que Jacques Faizan avait représenté, dans un dessin. L'appel des 43, effectivement, mais ça avait été précédé. Vous évoquiez les deux périodes de deux années en dehors du pouvoir, entre 1972 et 1974, par un certain nombre de coups bas. Coups bas qui venaient effectivement à la fois de la rue de Rivoli et du ministère de l'Intérieur. Donc on avait en quelque sorte sabordé la planche de Jacques Chaban-Delmas avant.
Il se replie sur Bordeaux. Alors Bordeaux, il faut que vous nous expliquiez que c'est depuis la plus haute antiquité une ville de pactes. Alors on pourrait parler de Montaigne, on pourrait parler du 19e siècle, il y a eu un pacte entre des républicains de différentes tendances. Et à l'époque de Chaban-Delmas, il y a aussi un pacte qu'il passe avec ses vassaux qui peuvent appartenir à d'autres partis que lui, mais qu'il fédère en tant que duc de la communauté urbaine de Bordeaux.
Avant même la communauté urbaine, il le pratique, il le met en place ce pacte au milieu des années 50. Et là, sa pratique nationale du pouvoir, ministre de Mendès, par exemple, dans un gouvernement justement où il y a une grande différence politique, lui permet par exemple, à ce moment-là, il a conclu cet accord avec les socialistes bordelais qui lui permettent de sauver donc sa mairie là, après 1954. Et ça se renouvelle avec la communauté urbaine de Bordeaux. Et dans la mise en place, enfin, à partir même de 1958, il y a... C'est effectivement pas un Yalta conclu sur un papier, mais un accord avec les socialistes en particulier. En gros, le donjon pour Chaban, donc la mairie, et autour des accords pour que les grandes municipalités ou les grandes circonscriptions de la périphérie restent entre les mains des socialistes.
Une société locale assez consistante permet de former des coalitions politiques, à tel point que, même ébranlé par la montée progressive de la gauche dans la métropole, il peut imaginer, en 1984, devenir, pourquoi pas, deux ans plus tard, en 86, le premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. François Mitterrand se rend compte que la défaite est inéluctable, dans deux ans, là, et il va faire des mamours, si je puis dire, à son vieux camarade, Jacques Chaban-Delmas, qu'il visite en Grand Arroy, donc en 84.
L'image qu'on attendait à propos du dialogue, c'est celle-ci. La poignée de main entre le chef de l'État et M. Chaban-Delmas, qui l'accueillait hier soir à Bordeaux. Les deux hommes se connaissent depuis 40 ans.
Vous êtes le pouvoir, et je suis dans l'opposition. L'un et l'autre, nous n'avons pas cessé d'avoir pour but d'assurer à la France les moyens de remplir sa mission humaine dans le monde.
Nous en sommes encore à parler de la France avec la passion qui nous habite et chacun fidèle à ce qu'il est, fidèle à ce qu'il croit.
Bon, ce ne sera pas en 86, Chaban, ce sera décidément toujours lui. Jacques Chirac, les deux hommes se ressemblent quand même. L'aventure, le goût de l'aventure, la pratique du compromis.
Certains points communs, effectivement, de ce point de vue-là.
Dites-moi, je voudrais, Bernard Lachaise, puisque vous êtes un grand connaisseur de Bordeaux, que vous nous expliquiez pourquoi cette convivialité particulière de Bordeaux se manifeste encore. Convivialité religieuse. Le Premier ministre est venu faire une visite à Bordeaux. Il a rencontré l'imam d'exception, Tarek Obrou, qui vit à Bordeaux et qui lui a dit, ça pourrait être la devise de votre ville, il faut travailler à relativiser nos convictions.
C'est une ville qui, historiquement, est modérée et tempérée et a toujours cherché à privilégier la conciliation, la concertation sur les affrontements. Et Jacques Chaban-Delmas a largement contribué à maintenir cette pratique. Avec les religieux, effectivement, les différentes sensibilités et confessions de la ville, ça a été facile avec les protestants. Pas facile avec les catholiques au début, mais ensuite l'entente a été très bonne, et avec l'ensemble des confessions.
Les adversaires d'Alain Juppé, mais vous m'aviez promis de ne pas parler d'Alain Juppé, disent « Oui, mais c'est une ville qui n'est pas représentative, c'est une métropole qui n'est pas représentative de la société française. »
Alors, il y a la métropole et la ville proprement dite. Bordeaux traîne, si j'ose dire, une réputation à laquelle Mauriac a peut-être un peu contribué, d'une ville extrêmement bourgeoise. En réalité, il y a les deux. La ville, d'abord, s'est transformée sociologiquement. Elle n'est plus ce qu'elle était après la guerre. Elle a évolué je pense qu'il ne faut pas avoir justement d'image caricaturale de Bordeaux, ni dans un sens, ni dans un autre. Ce n'est pas une ville particulièrement originale, mais elle est peut-être moins clivée, effectivement, que d'autres villes françaises, en tout cas dans la commune proprement dite.
Son maire actuel est moins romanesque que Jacques Chaban-Delmas, encore que les dernières années de Jacques Chaban-Delmas, pathétique. Il est immobilisé par la maladie, il a du mal à se déplacer, il est rejoint dans des scandales de mauvaise gestion, sont difficiles et sont romanesques.
Difficile, effectivement.
Et romanesque.
Et romanesque.
Parce que vous l'avez vu, vous, les dernières années ?
Je l'ai rencontré, malheureusement, je ne l'ai connu que sur la fin de sa vie. Toujours, effectivement, intellectuellement très alerte, toujours avec cette formule avec laquelle il accueillait les gens, soyez heureux, mais diminué physiquement. Mais je pense qu'intellectuellement, il ne l'a pas été jusqu'en 1995, tant qu'il a eu les rênes du pouvoir.
Centenaire de Jacques Chaban-Delmas, qui est mort en l'an 2000, avec un colloque que vous animerez au mois d'octobre, et quelques festivités au pied de sa statue devant le Palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux, le 7 mars. L'émission qui vient après qu'on a parlé d'un homme si humain est consacrée, Mathieu Vidard,
au robot et à l'intelligence artificielle, Jean, dans un instant.
Faut-il avoir peur des robots ? C'est une bonne question avant les présidentielles. L'équipe de La Marche de l'Histoire, Kevin Pelot à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, et pour la préparation, Linka Negulesco, Franck Olivard et Frédéric Martin.